parole du jour avec le Père Willem.
L'ambiguïté du rire. L'analyse récente, la plus complète, sur la place du rire dans la tradition spirituelle occidentale est probablement celle de Carl Joseph Kuchel. Dans son court essai sur le rire. Au début de cette étude, plaisante à lire, Kuchel, qui enseigne la théologie dans la prestigieuse université de Tübingen en Allemagne, reconnaît l'impossibilité conceptuelle à développer une théologie du rire du fait de son caractère polymorphe. Et certains rires sont dignes de louange, d'autres non. Il y a des rires pleins de joie confortable, et puis espiègle, et heureux, écrit-il. Et il y a des rires moqueurs, mauvais, désespérés et cyniques. Alors, Kuchel énumère deux façons de considérer le rire d'un point de vue spirituel. Comme leur maître de Nazareth en a fait l'expérience, dit Kuchel, les chrétiens doivent tenir compte du fait que l'on peut être sujet ou objet du rire. Le rire peut blesser ou soigner. Bien qu'il parle d'un point de vue principalement chrétien, son propos s'applique avec profit aux nombreuses grandes traditions spirituelles et religieuses. Ainsi, certaines écoles de spiritualité condamnent-elles le rire, tandis que d'autres le louent. Tant qu'il demeure fermement dans la première catégorie, celle du rire plein de joie, et qu'il ne tombe pas dans la moquerie, le rire de l'homme est un don de Dieu, une expression spontanée de notre plaisir à être au monde. Le rire fait son chemin à travers la plupart des grandes histoires de l'Ancien Testament. Il trouve aussi sa place chez les saints et les maîtres spirituels dans les nombreuses traditions religieuses comme composante nécessaire d'une vie saine. Qu'en est-il de l'humour? Des récits portant sur le bon usage de l'humour et des histoires drôles traversent les Écritures, ainsi les écrits de presque toutes les principales traditions religieuses. On peut par ailleurs trouver des personnages pleins d'humour, des formules humoristiques, des événements comiques dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les saints chrétiens et les maîtres spirituels des autres traditions utilisent fréquemment l'humour dans la parole et dans leur action. Ils s'en servent souvent comme un moyen pour faire passer les enseignements importants auprès de leurs disciples. Mais y a-t-il une explication spirituelle à cela? L'approche double de Kuchel est à cet égard très utile. Il y a un humour qui construit et un humour qui détruit, un humour qui révèle l'hypocrisie et les paroles creuses, et un humour qui rabaisse les petits et les exclus, un humour bon et un humour mauvais. Bien évidemment, la plupart des observateurs laïcs seraient d'accord sur le point suivant, il y a un caractère moral à l'humour, mais ceux qui observent la question d'un point de vue confessionnel la considèrent de façon légèrement différente, car ils la regardent à la lumière du désir de Dieu pour l'humanité. La caractérisation de l'humour comme bon ou mauvais n'est pas seulement une affaire de morale, mais elle relève aussi de cette révélation. Oui, cette révélation, c'est la façon dont cet amour approfondit ou empêche la relation à Dieu. Comme pour le rire, l'approche théologique de l'humour, pour condamner ou pour louer, dépend de l'intention. Les soldats romains qui insultent Jésus le revêtent d'un manteau rouge, lui enfonçant une couronne d'épines sur la tête et lui mettant un roseau dans la main. Et ça donne un rire mauvais. Ils se moquent de Jésus, le traitant de faux roi. Cependant, les évangélistes mettent cet épisode à profit, car l'humour de mauvais goût des soldats romains permet de poser une affirmation théologique. Jésus est véritablement roi, ce que les soldats ne savent pas. La plaisanterie se retourne contre eux d'ailleurs. À l'opposé des soldats, il y a la façon dont Jésus fait usage de l'humour. La plupart de ses paraboles étaient fort probablement perçues comme étant non seulement astucieuses, mais aussi franchement drôles. Vraiment drôles, lui. Cependant, nous passons à côté d'une partie de l'humour de Jésus, car nous ne percevons pas toujours ce qui est amusant aux yeux des hommes et des femmes de la Palestine du premier siècle de notre ère. L'exégète jésuite Daniel Harrington pense que la plupart des paraboles de Jésus devaient susciter l'hilarité de ses auditeurs. Ces piques à l'encontre des officiels romains, des chefs religieux, juifs et des riches avaient non seulement pour but de faire taire les puissants, mais aussi de faire sourire son auditoire, une technique généralement douce, mais efficace. Il y a donc un bon rire et un mauvais rire, un bon humour et un mauvais humour. Alors, un petit poème pour finir. On les croyait derrière, ils sont devant, les priants, petite poignée de grains, émigrés sur les ailes du vent, petit peuple nomade et piétonnier, navigateur du désert, quêteur d'aventure, pêcheur d'espérance et mendiant du cœur, saint et traînard, cueilli à l'histoire et aux contradictions des confessions et des religions, des races et des cultures. On les croyait derrière, ils sont devant, les priants, ils parlent la prière, comme d'autres parlent le patois. Car contrairement à ce que l'on croit, la prière n'est pas langue savante, mais la langue du peuple. Ils ont vu la mer s'ouvrir comme une fleur, et l'oiseau de la vie qui volait sur les eaux. Ils ont vu la terre se lever comme une pâte à pain, se fendre comme une blessure qui soignait la vie, et la vie pour eux était en fruit. Ils ont vu le ciel claquer comme un drapeau qui leur passait devant. Ils ont vu l'homme debout comme un hymne. Ils ont vu notre avenir, gloire à Dieu. La terre sera nouvelle. La terre sera nouvelle. Voici le printemps. Sur le caillou blanc de la prière, l'oiseau s'est posé. Son nom est Liberté. Et il vous invite à un fou rire, peut-être un sourire, ou tout simplement à rire aux éclats.